Chapitre 72. En nous guidant à travers les couloirs de sa résidence, Alban de Breuil parle sans arrêt. Sa vie, les témoignages bouleversés des femmes qui lui confient à quel point ses sacs à main ont changé leur vie, les affreuses contrefaçons, les nouveaux produits en développement dont un étui à jetons de caddie. Que du passionnant. J'écoute d'une oreille distraite. Je me sens comme une athlète qui va entrer sur la pelouse du stade. L'épreuve m'attend au bout du corridor, vitrine 17. Lancé de poids ou lutte, je ne sais pas, mais cela finit immanquablement par un sprint suivi d'une course de fond. Une sorte de triathlon façon Julie. J'espère que la vitrine 17 ne contient pas un bijou trop lourd ou un masque en or massif, sinon je n'arriverai jamais à cavaler avec. Peu importe, je suis décidée à remporter la médaille. C'est mon but ultime, le sommet de ma carrière, 24 heures avant que Rick n'entre à son tour dans l'arène. Je vais le coiffer au poteau et lui offrir ma victoire. Nous arrivons dans le couloir d'accès qu'emprunteront les visiteurs. Il y a encore du plastique sur les moquettes. Des fils pendent des faux plafonds. Bien que la tentation soit grande, j'ai payé pour apprendre qu'il ne faut jamais les mettre en bouche. Les escabeaux et les outils encombrent le passage. On sent que le lieu a été évacué d'urgence de ses ouvriers pour nous laisser la place. Sur les murs, histoire de mettre les visiteurs en condition avant d'entrer dans le sanctuaire de la légende, des photos sont alignées. Charles de Breuil pendant ses expéditions, Charles de Breuil ou son fils posant avec les stars, les icônes des décennies passées et les puissants du monde entier. S'étalent aussi les fameuses campagnes de pub de la marque. Acteurs, chanteuses, sportifs, tous ont tôt ou tard associé leur image aux emblématiques bagages de la marque. Quelques clichés présentent aussi Alban en grande compagnie. Je vous parie qu'elle va faire placarder une des photos prises par Sophie au cas où Madame Dostoyeva reviendrait. Notre hôte explique. Le public accédera par une entrée dédiée du domaine. Parking de 100 places, une boutique avec beaucoup de petites choses à tous les prix. Merchandising spécifique. Nous arrivons dans le grand hall qui dessert les différentes zones du musée. Trois agents de sécurité armés se font aussi discrets que possible. Je demande innocemment.
Cet endroit doit être remarquablement protégé.
Nous bénéficions des toutes dernières avancées technologiques. La surveillance a été conçue pour être opérationnelle dès les abords du domaine. Nous pouvons boucler l'ensemble du bâtiment en moins de 4 secondes.
Bonne chance, Rick, avec ta perceuse.
Nous traversons deux petites salles où sont présentées les différentes techniques de fabrication. 23 fois la surface de mon appart pour expliquer comment on fait un sac à main. Madame Bergerot me murmure.
Il faudrait que j'aille aux toilettes.
Madame Dostoyeva souhaiterait connaître la valeur des pièces que vous exposez.
L'ensemble de la collection est assuré pour 26 millions. Mais au-delà de cette valeur, certaines pièces sont inestimables. Nous avons par exemple des bagages historiques ou des bijoux d'exception qui font partie de la collection créée par mon grand-père. Mon père l'a considérablement enrichi à son tour et je poursuis leur œuvre. Vous allez pouvoir en juger.
Nous voilà au seuil d'une salle plus vaste. Je crois reconnaître la forme du plan des dossiers de Rick.
Alban écarte les bras comme une prêtresse en transe.
Nous voici au cœur de notre musée. Mon grand-père et mon père auraient été si fiers.
Des murs aveugles, un plafond assez bas, une multitude d'éclairages ponctuels qui créent une ambiance élégante, mais aussi des caméras partout et des détecteurs. La porte est blindée. Cet endroit est un vrai coffre-fort. Les vitrines y sont harmonieusement disposées. Sur chacune figure une pancarte provisoire avec son chiffre. La numéro 1 est ouverte sur plusieurs objets de maroquinerie usés, un porte-documents, un sous-main et une parure de bureau.
Ces pièces ont trôné sur le bureau des monarques d'Angleterre. Elles ont été offertes par mon aïeul et mon père les a rachetées lors d'une vente au profit des œuvres de la couronne.
J'essaie d'apercevoir la vitrine 17. La pression monte. Si je dois fuir, je n'ai pas d'autre choix que de passer par l'unique porte de cette salle. Dans le hall, je vais tomber sur les trois gorilles. Si j'ai l'air calme et naturel, ils n'oseront sans doute pas m'arrêter.
Vitrine 6, un premier collier. Spectaculaire rivière de diamants et d'émeraudes. Magnifique. Vitrine fermée, clignotant rouge sur le socle de velours noir qui supporte la parure. Avec la fortune que cette pièce à elle seule doit représenter, Rick et moi aurions sans doute de quoi vivre pour le restant de nos jours. Vitrine 10, un bagage à tiroir secret spécialement fabriqué pour le célèbre danseur et chorégraphe Vladimir Tarkov.
qui transportait une relique sacrée, un morceau du voile de Sainte Clotilde. Ce qu'il considérait comme son porte-bonheur le suivait dans toutes ses tournées et avant d'entrer sur scène, il l'embrassait. Vitrine 12. La malle dans laquelle le corps du dissident argentin Pablo Jiménez fut jeté dans le fleuve Parande à Rosario. « En vous penchant, confie Madame de Breuil, vous distinguerez les traces de sang au fond et les rayures faites avec ses ongles pour essayer d'en sortir. Il a dû souffrir atrocement avant de périr noyé. » J'aperçois enfin la vitrine 17, mais je n'arrive pas à identifier ce qu'elle renferme. La 14 et la 15 contiennent toutes les deux des bijoux, toujours plus gros, toujours plus chers. Il y a même un œuf de Fabergé, on se croirait à la Tour de Londres. Nous atteignons enfin notre but, la vitrine convoitée par Rick. En découvrant son contenu, je ressens un choc. Elle ne renferme qu'un vieux sac à main. Ce n'est forcément pas ce que Rick ciblait. Je dois savoir. Je fais un effort surhumain pour demander d'un ton léger.
Votre musée est superbe. J'aime beaucoup l'enchaînement et l'alternance des vitrines. Comment répartissez-vous les objets présentés?
Au feeling, nous avons longuement réfléchi à la scénographie du lieu, mais nous procédons à des ajustements chaque jour.
J'en étais sûre. Ils auront changé l'ordre des vitrines au dernier moment. Quel bijou Rick pouvait-il convoiter? La rivière de la Cis? Je reste interdite devant la vitrine 17, abasourdie par ce changement qui remet en cause tous mes plans. Madame Bergerot s'approche. Elle se doute que quelque chose me contrarie, mais elle ne peut pas me parler. Alban est trop proche et pourrait entendre. Irina Dostoyeva contemple le vieux sac usé avec moi.
C'est une pièce très spéciale, commente Madame de Breuil, mais j'avoue que j'ai hésité à la présenter au public. Au départ, nous avions prévu de placer ici un de nos plus beaux joyaux.
Je m'en doute, et tu n'imagines pas à quel point ça me pose un problème.
Ah bon? Notre conseiller muséographique a dit que la part patrimoniale n'était pas assez représentée, alors j'ai cédé. Ce sac est le premier qui fut produit dans nos ateliers. C'est l'ancêtre de toutes nos collections, la base de notre plus célèbre produit.
Je n'arrive pas à me ressaisir. Madame Bergerot flotte aussi. Madame de Breuil le remarque.
Vous semblez fascinée par cette pièce.
La première pierre d'un édifice est toujours émouvante,
parviens-je à prononcer. Alban semble hésiter.
Si cela peut faire plaisir à Irina, je serai heureuse de la lui offrir.
C'est très gentil, mais Madame Dostoyeva n'a pas pour habitude de recevoir ce genre de présent.
Elle semble tellement sous le charme. Demandez-lui ce qu'elle en pense. De toute façon, j'avais prévu de lui offrir notre dernier modèle. À la place, elle recevra le premier. Si nous nous associons, elle aura de toute façon accès à notre patrimoine.
Je traduis. Madame Bergerot reste interdite. Sans attendre la réponse, Madame de Breuil fait signe à une caméra toute proche. Elle désigne la vitrine. Un léger déclic résonne dans le silence feutré. Cette collection est imprenable. Je ne sais pas quel bijou Rick comptait voler, mais il n'y serait de toute façon pas arrivé. Alban de Breuil ouvre la vitrine blindée et soulève le sac. En s'inclinant respectueusement, elle le présente à Madame Bergerot.
Voici un modeste souvenir de notre première rencontre, et que cela ne vous engage à rien d'autre qu'à une longue amitié partagée.
Je traduis avec beaucoup de mal. J'ai la tête en vrac. Que vais-je dire à Rick? Quelle victoire vais-je lui offrir? S'il tente le coup malgré mon repérage, il se fera prendre. Je n'ai rien résolu du tout. Je ne l'ai pas sauvé. Je ne l'ai pas coiffé au poteau. Je suis simplement désormais parfaitement consciente du traquenard absolu dans lequel il va se jeter. Quoi qu'il fasse, je vais le perdre. S'il échoue, il finira en prison. S'il réussit malgré tout, il s'enfuira sans moi puisque je n'ai pas su lui inspirer confiance, et je le perdrai aussi. Il me faut un autre plan pour éviter la catastrophe. Le seul qui me vienne sur l'instant, c'est d'assommer Rick et de le ligoter pour l'empêcher d'accomplir son forfait. Ensuite, je le séquestrerai pour toujours. Je compte sur le syndrome de Stockholm pour qu'au fil des années, il finisse par m'aimer.